Un caillou dans la chaussure, bonjour. Au sommaire aujourd'hui, des images diverses et variées, plus que jamais comme nous les aimons, comme nous aimons vous les faire partager, des images et encore des images en tant que représentation, comme celles que nous pouvons avoir des contes fantastiques, celles qui peuvent être questionnées aussi d'ailleurs par un dispositif scénique. Alors là, on sera déjà dans la dernière partie de l'émission avec Florence qui nous propose de rencontrer la troupe de l'éléphant à propos d'un spectacle inspiré d'un conte des frères Grimm, une programmation à venir au Théâtre de Lanche. Bonjour Florence.
Oui, bonjour Marido, donc bonjour Nathalie. Il s'agit des deux frères, un des contes les moins connus des frères Grimm, qui a été mis en scène par Gilles Robic sur un projet de Laetitia Solari avec Muriel de Mazancourt à la musique. Elles sont donc deux en scène pour parler de pour faire le récit de cette histoire pleine de rebondissements, de personnages, d'actions, un spectacle vraiment plein de vie. Donc à découvrir du 17 au 29 mars à la Friche du Panier.
Merci Florence, à tout à l'heure. Alors des images, comme je le disais en introduction, cinématographiques cette fois-ci. Alors nous avons déjà eu l'occasion aussi de sentir la richesse des approches esthétiques au fil de la programmation du petit cinéma et bien entendu de Laterna Magica, pardon, portée par Photokino. Donc Nathalie, l'actualité du petit cinéma donc pour le mois prochain, ce sont plus particulièrement des images en papier découpé avec le Prince Ahmed.
Oui, avec les aventures du prince Ahmed de la réalisatrice allemande Lotte Reiniger. Et il se trouve, ce n'est pas rien que c'est le premier long métrage d'animation européen du mois. J'en dirai plus tout à l'heure.
Mm-hmm. Merci, à tout à l'heure. Et tout de suite, des images photographiques. Dès lors qu'une artiste s'en mêle, on ne voit plus le monde de la même manière. Nous accueillons Geneviève Chatouillot, présidente de l'Association des Trois Ours, à propos d'albums photos pour les tout-petits, des albums de Tana Oban, une artiste aujourd'hui disparue, mais une pionnière. Fermez un œil, apposez votre main, refermez en forme de cylindre sur l'autre œil et regardez les détails du quotidien. Ils vous sautent aux yeux. Alors, une fois n'est pas coutume, notre invité aujourd'hui va nous parler d'une artiste qui est décédée malheureusement en 2006. Une photographe américaine qui a vécu les 25 dernières années de sa vie en France, Tana Oban. Tana Oban qui a proposé des albums de photographie au premier abord simples. Et pourtant, elle est considérée comme une pionnière, dans ce domaine, à l'époque où ses premiers livres sont édités en France, en 1990, je crois, et une quinzaine en tout, aux éditions Kaléidoscope. Alors, pour parler de Tana Oban, la photographe qui invite à voir, à mieux voir, à voir le quotidien dans le détail, avec nous aujourd'hui, Geneviève Chatouillot. Geneviève Chatouillot, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes bibliothécaire de formation. Vous avez rencontré Tana Oban lors d'ateliers avec des enfants. Vous êtes aussi présidente des Trois Ours, une association de trois bibliothécaires qui valorise des livres par des expositions, de l'édition et des formations. Vous rentrez d'ailleurs d'Italie, du festival Mini Mondi à Parme, où vous avez donné une conférence sur Tana Oban. Ou plutôt, pas exactement une conférence, nous allons le voir tout de suite. 2018. Alors, pour introduire notre entretien, donc il est un a priori que la photographie rend le réel d'une manière abrupte et qu'elle puisse manquer de fantaisie. De toute évidence, Tana Oban a contourné cet écueil puisqu'elle a révélé combien la photographie pouvait stimuler l'imaginaire, une démarche artistique avant tout. Alors, Geneviève Chatouillot, qui était Tana Oban et qu'est-ce qui vous fascine dans son travail ?
Alors, tout d'abord, je voudrais dire que nous sommes une association de plus de 24 personnes. Et mes trois bibliothécaires l'ont fondée. Voilà. Qui était Tana Oban ? C'était une Américaine dont les parents, effectivement, étaient nés en Russie, étaient Ukrainiens et ont émigré aux États-Unis dans les années 1915. Elle est née en 1917, elle avait pour ses parents une vénération, en particulier pour son père, qui était acteur et qui a tenu longtemps un kiosque de presse à Philadelphie. Tana a fait ses études d'art au Moore College de Philadelphie, justement. Elle s'est destinée au départ à la peinture et puis, assez rapidement, elle s'est mise à prendre des photos pour des publicités autour des bébés. Un jour, elle a pensé qu'elle voulait faire autre chose. Elle était d'ailleurs elle-même enceinte. Et elle a été surprise d'apprendre que on avait, dans un collège proche de chez elle, à Philadelphie, donné aux enfants des appareils de photo pour photographier ce qu'ils avaient sur le chemin de l'école, parce qu'à la question qu'on leur avait posée, « Qu'est-ce que vous voyez quand vous venez à l'école ?», tous avaient répondu « Nous ne voyons rien ». Et effectivement, Tana a décidé qu'elle allait partir autour de chez elle. Elle ne pouvait pas voyager, elle était enceinte, et explorer cet ordinaire de la quotidienneté. Elle a commencé à faire des photogrammes, c'est-à-dire des photos solarisées. Elle posait des objets sur une feuille et elle, un peu ce qu'on obtient quand on met des choses sur un appareil de photocopie. Elle a fait ainsi un premier abécédaire à partir d'objets tout simples qu'on retrouvera dans beaucoup de ses livres, une paire de ciseaux, une bobine de fil, des boutons. Et elle a proposé ce travail à Suzanne Hirschman, qui à l'époque dirigeait les éditions Green Willow.
À New York.
À New York.
Et une rencontre décisive avec Suzanne Hirschman.
Une rencontre assez décisive, sauf que Suzanne Hirschman a refusé au départ ce livre-là et lui en a demandé un autre. C'est là qu'elle a conçu Look Again. Alors, Look Again, on pourrait le décrire. Kaleidoscope a eu la belle idée de le publier en français et je l'ai sous les yeux. C'est un livre extraordinaire parce que il est la première page que l'enfant va ouvrir est trouée avec un carré et on aperçoit la page en dessous quelque chose d'abstrait, d'inidentifiable au premier regard. On voit des taches, on voit des lignes, on voit des contrastes de couleurs entre blanc, gris et noir. Et on est obligé de se poser des questions. Est-ce que c'est un cactus ? Est-ce que c'est une toile d'araignée ? C'est bizarre, ça ressemble à quelque chose que je connais. Est-ce que c'est une étoile dans la Voie lactée ? Et on va attendre comme ça un certain temps en laissant effectivement flotter son imagination. On va tourner la page et on va avoir un choc. On va avoir une surprise extraordinaire. On va découvrir à ce moment-là qu'il s'agit d'un pissenlit, une fleur de pissenlit.
Quelque chose de très familier,
mais elle est photographiée en gros plan, elle est parfaitement tactile, on en sent tout à fait la délicatesse, la fragilité, on pourrait presque toucher et souffler dessus, on aurait l'impression que ça va s'envoler. Et quand on a ouvert cette page, on tourne encore une fois, et à ce moment-là, on voit une photo où le pissenlit est en situation, dans son échelle normale. C'est un enfant noir qui souffle sur cette fleur. Un petit enfant dont on voit le visage avec les joues gonflées, en pleine action. Il y a du mouvement, il y a de l'air. Et la séquence est terminée. Mm-hmm. Et tout l'album va se déployer ainsi. Mm-hmm. C'était l'album, je vous dirais, préféré des enfants de la bibliothèque où je travaillais.
Oui, le titre en français, c'est « Que vois-tu ?» donc aux éditions Kaleidoscope.
Voilà.
Oui, effectivement, on retrouve le même principe en continu. Le petit carré ouvre donc encore sur des lignes noires et blanches sur la page de droite, qui peut faire penser, je ne sais pas, chacun est libre d'imaginer. Et puis, on découvre la tête d'un zèbre avec ce joli graphisme bien connu. Et puis, la troisième page, il est en train de rentrer ou de sortir devant une grande porte en bois. Et ainsi de suite. Voilà, c'est un très, très, très beau livre.
Ça donc, c'est le. C'est... Adorer les zèbres.
Ah
on
oui.
On les retrouve dans beaucoup de ses albums.
Oui. Donc, ça, c'était le premier livre.
C'était le premier livre. Et ensuite,
que Suzanne Hirschman a accepté.
Elle a accepté et elle a accepté immédiatement après l'abécédaire en photogramme, les deux livres qu'elle avait fait en photogramme. Et puis, Tana s'est mise à faire d'autres livres, en noir et blanc toujours, pendant un certain temps. C'est là que je dis que les Américains étaient largement en avance sur les Français. D'abord, en France, je ne vous cache pas qu'on trouvait que la photographie n'intéresserait certainement pas les enfants.
Oui, tout à fait.
On
c'était
l'avait
plus
utilisé.
Contexte propice.
Voilà, on l'avait quand même utilisé, puisqu'il faut se souvenir que dans les années 60, la photographe Hilla avait fait des photos magnifiques pour illustrer des textes, en particulier je pense à Bim le petit âne, on peut dire que ces photographes à ce moment-là jouaient un rôle d'illustrateur, si vous voulez.
Oui.
La photo venait accompagner une histoire. Longtemps, les éditeurs français ont refusé d'éditer Tana, on leur avait pourtant présenté, parce qu'ils disaient non, c'est froid la photo, les enfants préfèrent les couleurs d'abord et le dessin ensuite. Ce qui s'avère absolument erroné.
Bien sûr.
Il faut saluer le travail de Kaleidoscope qui a eu le culot de se lancer dans l'aventure et qui, je pense, ne le regrette pas. Alors ensuite, Tana a fait des livres en couleur. Elle a fait en particulier un livre que j'aime beaucoup, qui a été traduit en français aussi, qui s'appelle exactement le contraire, Exactly the Opposite. Et là, elle joue, il faut dire quand elle travaille, Tana, elle sort, elle se promène avec son appareil et elle photographie intuitivement, très spontanément, des détails qu'elle voit et des rencontres extraordinairement réussies dues au hasard. En particulier, elle voit des enfants qui ont des paires de baskets usées ou neuves, qui descendent ensemble d'une maison. Elle va les prendre en photo, elle voit un monsieur qui passe avec une rose dans son dos, un vieux monsieur qui traverse un passage, un zebra crossing, comme on dit, un passage à Rennes, Marais Blanc. Elle va le prendre en photo, elle prend ce qui lui vient sans trop réfléchir, et quand elle rentre chez elle, elle met ses photos, les développe, et elle les met toujours, elle les choisit de les mettre deux par deux. C'est-à-dire qu'elle envisage tout de suite l'album.
Elle envisage. Elle travaille sur l'association de photos
elle
entre elles.
Elle fait déjà un livre, hein, alors que beaucoup de photographes ne pensent pas livre. Elle dispose ses photos de telle manière qu'on les verra en double page. Et elle articule le choix des photos de telle façon qu'ils soient tout à fait surprenants ou complémentaires dans la double page. C'est ça qui donne à son travail une pertinence tout à fait particulière.
Et qui crée la surprise.
Elle crée la surprise.
Voilà, voire l'humour aussi.
Voilà. Et puis, elle ne s'attache pas seulement aux choses, elle s'attache à des thématiques, des concepts qu'elle transmet aux enfants. La forme, la matière, la couleur, la sensualité, le toucher. Ces quatre concepts, elle va les décliner dans tous ses albums. Et ils se retrouveront même tous dans un album très orienté sur un seul concept. Par exemple, dans Shapes, 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 des formes, encore des formes. On verra bien un travail sur la forme. Elle va photographier des cercles, elle va photographier des triangles qui se trouvent dans les choses, dans les ballons, dans les camions de pompiers.
Les camions citernes.
Voilà, mais on a aussi en même temps la sensation de lisse, de froid, de chaud, de rugueux. On peut avoir la sensation également de couleur. Hein. Les choses sont rouges, un beau gris. Donc tout est ensemble, mais l'enfant a son attention attirée sur en particulier la forme.
Alors, vous disiez l'exemple que vous donniez des baskets propres et des baskets sales. Donc, cette photo en couleur fait l'objet de la première de couverture oui. De exactement le contraire. Et les enfants, si à une époque, elles les prenaient en photo pour des publicités, là, maintenant, les enfants sont au cœur de ces livres encore, mais pour parler aux enfants, pour s'adresser aux enfants.
Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle les photographie souvent absolument pas entiers. Elle prend l'enfant en partie. Par exemple, on voit un bras, une petite main potelée qui touche une étoile de mer. On voit des jambes, la petite fille et le manteau debout sur les colonnes buraines dans le Palais Royal à Paris. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir pensé à ça, parce que n'importe quel enfant peut s'identifier, puisqu'on ne voit pas le visage nécessairement de l'enfant. On l'en voit aussi, dont on voit le visage. Mais elle ne les prend rarement de plein pied. Ils ne posent jamais. Ils sont en mouvement.
Tout à fait. Donc, ce sont des livres vivants.
Vivants et qui s'adressent totalement aux enfants et qui les font parler extraordinairement parce que, si vous voulez, tous ces détails qui sont pris dans les objets qu'ils aiment, par exemple, elle a fait un imagier ravissant qui s'appelle « De toutes les couleurs », elle met dans ses imagiers les choses que les enfants connaissent bien, les petits objets en plastique dont ils se servent pour manger, les petits poissons en plastique, les petits animaux en plastique, mais elle met aussi les glaces délicieuses au chocolat, un chien en chocolat, des plumes, des œufs, des coquilles d'œufs, des toupies. Enfin, Tana est enfant, elle joue aussi avec les enfants.
Et quand vous parlez d'objets familiers comme ça, tous les livres de Tana Oban, puisqu'elle en a réalisé une bonne cinquantaine, ils n'ont pas tous été traduits, puisque certains peut-être qu'ils ne peuvent pas être diffusés en France, par exemple, parce que certains objets sont vraiment spécifiques d'un univers d'enfants américains.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il y a dans certains de ses livres, on voit des bornes d'incendie qu'on ne trouve pas en France. Mmh. Et puis, il y a des choses écrites qui sont difficilement traduisibles, en particulier tous les livres qui jouent sur la notion d'abécédaire.
Oui.
Mais il y en a encore beaucoup qui pourraient être édités. Je pense que Kaleidoscope poursuivra son travail. Il faut savoir que nous avons réalisé autour de Tana Oban une très belle exposition parce qu'elle a été invitée à la Foire internationale du livre pour enfants de Bologne, foire qui a été créée dans les années 65, et elle a été invitée en 2001. Et à ce moment-là, les trois ours ont fait une belle exposition, une grande exposition, où l'on trouve, agrandie de manière géante, des photos couleurs et noir et blanc, qui sont les plus parlantes et classées aussi par thème. Cette expo, d'ailleurs, a circulé dans toute la France, mais a été également en Corée, il y a 2 ans. Elle a été au Festival de la jeunesse de Séoul.
Mmh. Donc, elle continue à circuler.
Elle continue à circuler. Elle était, il n'y a pas très longtemps, à Antibes, et je crois qu'elle est allée à Martigues.
Mmh. Oui, proximité de Marseille. Sophie Curtil, une artiste plasticienne que vous connaissez très bien, avec qui vous travaillez, vous allez nous en dire plus après concernant l'association des Trois Ours. Elle dit des livres de Tana Oban qu'ils sont de puissants régénérateurs de notre organe visuel atrophié. Alors, je me disais que c'est peut-être valable pour nous, les adultes, qui avons des résistances, des a priori, mais pour les tout-petits auxquels les livres s'adressent, la chance leur est d'emblée donnée de collecter des indices qui facilitent la perception du monde. Je crois que ça, c'est une force des livres de Tana Oban. Et ce que j'ai remarqué aussi, mais je crois que vous l'avez déjà souligné dans la manière qu'elle a aussi de susciter la curiosité et l'intérêt, c'est que, par exemple, quand on prend la liste qui n'est pas exhaustive des titres de ces livres, quand on dit « Que vois-tu ?»« Exactement le contraire »,« Blanc sur noir »,« Noir sur blanc »,« Toutes sortes de formes »,« Ombre et reflets », où précisément, regarde bien, qu'est-ce que c'est? En fait, elle est dans le questionnement, elle est dans une démarche pédagogique pour attirer l'attention et susciter la curiosité des tout-petits.
Oui, elle cultive le regard.
Oui,
elle cultive notre regard. Et elle nous fait un cadeau extraordinaire. Les petits sont déjà tout à fait dans le détail. Ils sont immédiatement dans la sensation. Hein. Mais quand on grandit, comme vous le dites si bien, on ne voit plus. On ne sait plus voir. Mm-hmm. Et quand on a lu les ouvrages de Tana Oban, on ne voit plus rien comme avant. Mm-hmm. D'ailleurs, dans ses ateliers, ce qu'elle disait aux enfants en arrivant, les enfants disaient « notre cité est pourrie », alors qu'elle était en fait très belle. Hein. Mm-hmm. Elle leur disait « écoutez, voilà, vous allez partir chacun avec un appareil Polaroid et nous allons faire aujourd'hui une recherche particulière sur la couleur jaune. Tout ce que vous verrez de jaune, vous allez le photographier, même si c'est un papier déchiré dans un caniveau. » Et à ce moment-là, elle nous donne la clé de sa démarche et la clé de ce qu'est un regard esthétique.
Voilà, c'est ça, c'est le mot. Mmh. Et en même temps, donc même si on part avec une intention de rechercher des objets avec un point commun ou dans une démarche bien particulière, ensuite, c'est aussi la part belle est faite à l'imagination, à la surprise, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Mmh. Et tout devient intéressant.
Voilà, c'est ça. Alors, pour continuer sur l'œuvre de Tana Oban, un dernier livre, et en même temps, peut-être pouvez-vous nous parler un petit peu plus de l'Association des Trois Ours, de votre travail, de la qualité de votre travail et du choix pertinent que vous avez fait de travailler autour des artistes, puisque c'est ce qui fait, je crois, la spécificité des albums jeunesse aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des albums sont réalisés par de très grands artistes. Et donc ça, c'est le travail des trois ours. Et puis, le dernier livre de Tana Oban, qui s'appelle « Traces d'ancêtres disparus » que vous avez édité en 2001. Il est épuisé, ce livre ?
Alors, « Traces d'ancêtres perdus » est malheureusement épuisé. Mmh. Il avait été tiré à 500 exemplaires, malheureusement, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Pour ça, je dis, l'association est surtout une association qui a un regard éditorial, mm-hmm. qui a édité des catalogues d'exposition, qui s'est lancée dans l'édition de quelques livres qu'elle affectionnait particulièrement, en particulier On dirait qu'il neige, du danseur et chorégraphe américain Rémy Charlip.
Oui.
Et puis de livres de Miloš Zvar, et un tout petit livre de Paul Cox qui est paru en 2000 et qui s'appelle Le livre le plus long, parce que justement il n'a que 4 pages, mais en spirale, et il est sur le thème du lever du soleil jusqu'au coucher. Mais l'association effectivement a décidé de publier Traces d'ancêtres perdus parce que Tana tenait beaucoup à cet ouvrage qui est de nouveau en noir et blanc et pour lequel elle a pris des clichés photographiques en se promenant et en braquant son appareil sur les sols qu'elle parcourait. Et on a un sentiment étonnant de voir des formes, des graphismes qui font penser à peut-être à ce qu'on voit dans le ciel lorsque les nuages se déplacent. Mmh. Et là, on est complètement dans un rapport d'imaginaire, et ça parle beaucoup, on va dire, à notre inconscient. Ça peut évoquer des choses que l'on voit en rêve, ça peut évoquer des lettres, ça peut évoquer des formes mystérieuses, fantomatiques, des vieux souvenirs d'enfance, des choses du cinéma muet. Et « Traces d'ancêtres perdus », effectivement, est un peu un livre testamentaire. Et Tana, d'ailleurs, nous a quittés 5 ans plus tard. On était très heureuse d'avoir pu le publier, ce livre. L'Association des Trois Ours a à cœur de faire connaître l'œuvre de certains artistes, en particulier de Bruno Munari, l'Italien, qui nous a quittés en 1998 et dont on fête cette année le centenaire. Ce Bruno Munari a initié toute une démarche extraordinaire aussi autour des livres tactiles et des livres jeux. Nous avons un artiste qui s'appelle Katsumi Komagata, qui est japonais, qui a créé sa propre maison d'édition à Tokyo, One Stroke, et dont nous assurons la diffusion exclusive en France depuis maintenant plus de 15 ans, qui est lui-même très... très respectueux de la démarche de Bruno Munari et qui a fait pour sa petite fille depuis sa naissance toutes sortes de livres tactiles qui se déplient, qui se déploient dans des papiers extrêmement raffinés, précieux souvent, mais dont il dit qu'ils doivent être mis dans les mains des tout-petits. C'est pas parce qu'ils sont précieux qu'ils leur sont interdits, au contraire.
Au contraire.
Et c'est ça que nous appelons, nous, des livres artistiques pour les petits. Il y a le livre d'artiste, c'est une chose, mais il y a le livre artistique, c'est-à-dire le livre qui sort des schémas habituels au niveau de la forme, au niveau du papier, au niveau du nombre de tirages. Souvent, ils sont tout de même à faible tirage. Le prix peut varier, ils peuvent être très accessibles, mais ils peuvent aussi, comme ceux de Louise-Marie Cumont, qui est une de nos artistes les plus importantes aussi, qui fait des très beaux livres en tissu à la demande, atteindre des sommes plus élevées, comparatives à celles de certains tableaux, tout en étant d'ailleurs nettement moins coûteux. Mais ces œuvres-là sont mises dans les mains des plus petits, sont achetées par les bibliothèques publiques, dans les crèches, dans certaines écoles, dans les hôpitaux. Et on peut dire qu'à travers ces livres, nous répondons à l'objectif que nous nous sommes fixés, faire se rencontrer l'art, les enfants, les artistes.
Eh bien, Geneviève Chatouilloux, je crois qu'on va terminer sur cette très très belle intention. Je vous remercie beaucoup.
Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité.
Et au plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Da da da.
C'était Bobby McFerrin et Chic Corea. Alors, on aurait pu parler encore longtemps des trois ours, tant la richesse du travail fourni mérite d'être connue. D'ailleurs, Nathalie, tu les connais bien aussi, puisque tu as eu l'occasion de travailler sur certains des artistes valorisés par les trois ours.
Oui, ben notamment sur, on a montré pendant la Terna Magica, des livres de Bruno Munari ou Katsumiko Magata. Mm-hmm. Et bon, je voulais quand même préciser que si personne est intéressée pour les voir, on peut en découvrir à l'Alcazar, on peut aussi aller sur le site des Trois Ours, parce qu'il y a encore des livres qui ne sont pas épuisés, qu'on peut acquérir. Et puis, plus près de nous, enfin, la librairie Histoire de l'œil, dans le quartier Notre-Dame-du-Mont, qui a aussi quelques exemplaires à regarder et peut-être à acheter.
Bien, mais il est temps d'aller au cinéma. Alors, quel est le programme? Quel est l'atelier à venir pour la séance donc, du mercredi 5 mars? Nathalie, encore.
Bien, lors du prochain Petit Cinéma, le 5 mars à 10h, vous pourrez découvrir ou revoir au cinéma, aux variétés, comme tous les premiers mercredis du mois, le premier long-métrage d'animation européen, réalisé en 1926. Les aventures du prince Ahmed s'inspirent des contes des Mille et Une Nuits, et plus particulièrement des histoires du cheval volant et d'Aladin et la lampe merveilleuse.
Les aventures du prince Ahmed. Un film en silhouette de Lotte Reininger.
Il était une fois un grand calife qui avait deux enfants, la princesse Dinarzade et le prince Ahmed. Un jour arrive au royaume un magicien, aux longs doigts crochus, doté de grands pouvoirs. Il présente au calife une de ses dernières créations, un cheval volant, que le magicien donnera au calife en échange de sa fille. Le prince Ahmed, fougueux et sans peur, monte sur le cheval magique et s'envole toujours plus haut. Sans savoir faire marche arrière, il part vers des contrées inconnues.
Il atterrit enfin très loin de son pays, sur l'une des îles enchantées de Vak Vak. Le prince Ahmed était jeune et courageux, il n'avait peur de rien.
Dans ce pays lointain, il va rencontrer la belle Paribanou, maîtresse des esprits de Wak Wak. Paribanou a de longs cheveux qui tombent en cascade le long de son dos. Elle est revêtue d'une parure d'oiseau de paradis. Ahmed tombe sous ses charmes immédiatement et c'est le début d'un voyage extraordinaire au cours duquel il croisera des génies de l'ombre, une sorcière bienfaisante, un empereur de Chine aux yeux de chat.
Vous écoutez Radio Grenouille sur 88.8.
Les aventures du prince Ahmed est le deuxième long métrage de toute l'histoire du cinéma d'animation. Le tout premier étant non pas le Blanche-Neige de Walt Disney, non, mais plutôt un film argentin de 1917, aujourd'hui perdu, le film s'appelant El Apostol de Quirino Christiani.
Aujourd'hui perdus ?
Et oui, il y a des films qui disparaissent comme ça. Faute de bonne préservation, ou alors par la censure aussi, parce que je pense que c'est un film légèrement politique.
Un caillou dans la chaussure.
Lotte Reiniger, surnommée par Jean Renoir la maîtresse des ombres, est la créatrice de films réalisés tout en papier découpé. Cette technique s'inspire du théâtre d'ombre, mais aussi des silhouettes de papier. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des silhouettes de papier, j'ai amené un livre là, c'était notamment le Dada de Hans Christian Andersen. C'est une technique qui date du 18e à peu près. Donc Lotte Reiniger a découpé ses silhouettes pour faire ce film avec beaucoup de finesse et elle les a articulées ensuite aux épaules, aux coudes et aux hanches, ces petits personnages, et les a animées avec un bâton sur une feuille de papier transparente éclairée par en dessous. Puis ensuite, la caméra était installée au-dessus de la table et filmait image par image les déplacements des personnages. Alors bien sûr, c'est une technique qui demande beaucoup de patience et beaucoup de travail. Il a fallu 3 ans pour réaliser les 300 000 images qui composent le film.
Le petit cinéma, un caillou dans la chaussure.
À cette époque, en 1926, le cinéma était encore en noir et blanc. Lotte Reiniger a eu l'idée de plonger le positif noir et blanc dans des bains de couleurs pour un contraste saisissant entre les ombres noires et des verts, des bleus, des jaunes flamboyants. Et surtout, le cinéma était muet. La musique était jouée en direct pour accompagner le film. C'était un vrai spectacle. Et depuis 2003, il existe une version sonore des Aventures du prince Ahmed qui reprend la partition originale commandé à l'époque par Lotte Reiniger au compositeur Wolfgang Zeller.
Sur l'île voisine, près du lac enchanté, comme chaque nuit, la belle Paribano vient se baigner avec ses compagnes.
C'est le distributeur de films Carlotta qui nous permet de redécouvrir ce film dans une version magnifiquement restaurée, avec des intertitres de l'époque. Les intertitres, vous savez, ce sont les panneaux avec les textes écrits qui racontent l'histoire dans les films muets. Les textes allemands sont traduits à l'oral par l'actrice Anna Chigula, qui nous raconte ce conte des mille et une nuits de sa voix suave.
Oui, Nathalie, je me demandais, en voyant la petite image sur le programme du petit cinéma, est-ce que c'est un travail ou est-ce que c'est un film tout particulièrement, tout simplement, qui aurait inspiré Michel Ofslo, qui a réalisé Prince et Princesse ?
Oui, certainement. On ne le dit pas beaucoup. Bon, lui-même ne l'a pas beaucoup dit, les médias non plus. C'est un peu dommage, on oublie souvent de parler des chefs-d'œuvre qui inspirent. Mais c'est, je pense, clairement une inspiration directe pour Prince et Princesse, ces histoires de princesses qui se transforment. Bien sûr, d'ailleurs, de crapauds, mais d'autres animaux extraordinaires. Princesse au diamant. Et d'ailleurs, on s'inspire aussi un peu de Michel Ofslo, enfin en tout cas de son titre « Prince et princesse » pour l'atelier du petit cinéma de ce 5 mars. On a appelé ça « Prince et princesse de papier » et on va donc, nous aussi, s'amuser à découper dans le papier pour créer des personnages qu'on animera image par image. Donc rendez-vous mercredi prochain au cinéma pour découvrir ce joyau du cinéma d'animation pour tous dès 5 ans.
Alors pour terminer la rubrique cinéma, Nathalie, au début de l'émission, j'ai introduit sous le signe de l'image, des images, encore des images en tant que représentation, images cinématographiques, images photo. Donc nous venons d'en parler avec Tana Oban à propos du travail de Tana Oban. Et dans l'actualité, la grogne monte dans le milieu cinématographique plus particulièrement, puisque le milieu culturel est touché par des coupes franches budgétaires au au niveau national et plus particulièrement en ce qui concerne le cinéma, puisque c'est la partie que tu développes dans cette émission. Tu avais envie de grogner un peu, de dire aussi et de partager avec le public cette inquiétude pour l'avenir du cinéma.
Oui, oui, je pense que c'est important d'en dire quelques mots. Peut-être juste dire qu'aux dernières cérémonies des Césars, le 22 février, comme c'était un jour de mobilisation nationale, justement, pour que tous les acteurs de la diffusion cinématographique, de la création cinématographique, réagissent ensemble, débattent ensemble sur ce qui arrivait. Lors de la cérémonie, donc Jeanne Moreau même s'est exprimée. Donc ça a fait beaucoup de bien de faire sortir des mots où elle expliquait son inquiétude parce qu'elle aime beaucoup le cinéma, comme nous tous, en tout cas je me sens concernée, et que maintenant ça devient difficile pour des jeunes créateurs de faire beaucoup de films. Ça demande des questions de beaucoup d'argent, les problèmes des intermittents, la recherche d'un producteur, les problèmes de diffusion. Donc elle a exprimé sa crainte, sa peur, et elle a averti tout le monde pour que les personnes soient vigilantes. Et donc moi je voulais en parler parce que notre travail au sein de Photokino rejoint le travail de nombreuses associations françaises. Donc c'est l'idée avec le petit cinéma notamment d'illustrer la diversité des expressions cinématographiques, des expressions artistiques au cinéma, et puis de faire partager aux plus jeunes le plaisir de découvrir ces œuvres d'auteurs peu diffusées souvent, de cultures différentes qui élargissent le paysage audiovisuel. Et c'est ce travail de transmission, de diffusion, d'accompagnement, de préservation des films ou des œuvres plus généralement, puisque ça touche tous les secteurs de la culture, qui est remis en question parce que le ministère de la Culture a longtemps soutenu ces actions, et ça me semblait naturel, puisque c'était un bien utile pour tout le public, et que, aux dernières nouvelles, sans avoir de confirmation, mais c'est certainement pas dans l'autre sens que ça va se passer, sont annoncées des baisses, voire des suppressions de crédits en direction de ces actions de sensibilisation, de transmission, menées par des petites structures, souvent qui font un travail énorme
et qui sont proches du public.
Et les salles de cinéma, je veux pas trop. C'est sûr qu'il y a moins en moins de salles de cinéma à réessai, ou du moins même les salles à réessai diffusent de plus en plus de films commerciaux. Donc voilà ce que je voulais en dire, enfin de films commerciaux, de films très très grand public, un peu plus facile. Je voulais informer le public parce que c'est surtout le public qui est concerné. Parce que ça menace, je pense, beaucoup les questions de diversité de propositions culturelles. Et bon, pour résumer, je pense que petit à petit, on va avec ces nouvelles politiques vers une culture plus marchande. On parle de culture privée souvent, une culture avec certainement moins de contenu et qui fait plus de chiffres. Voilà. Et l'expérience que l'on a au sein de Photokino nous prouve que c'est pas le bon sens quoi pour faire passer, pour éduquer en quelque part de jeunes spectateurs, visiteurs. Enfin, plus d'informations sur la mobilisation du secteur cinéma, si vous le voulez, sur un site, je le donne, www.cinema-diversité-culturel.blogspot.com. Voilà. Et c'est pourquoi j'étais particulièrement heureuse aujourd'hui de pouvoir vous parler de ce film, Les Aventures du Prince Ahmed, qui est, comme souvent les films que l'on montre, un chef-d'œuvre et dont on n'a pas assez parlé. Et puis j'étais heureuse de pouvoir vous apprendre que c'est pas Walt Disney qui a fait le premier long métrage, qu'il y a eu d'autres créateurs avant qui l'ont inspiré. Et j'étais encore une fois heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Ça réveille le regard.
Children.
Bien, pour terminer cette émission, donc la dernière partie côté spectacle avec Florence, à propos d'un spectacle qui va être joué au Théâtre de Lanche, donc dans le courant du mois de mars, Florence.
Oui, on l'en parlait un petit peu tout à l'heure, donc les deux frères, d'après le conte des frères Grimm. Ce spectacle est une création de cette année, mais il a quand même déjà une histoire, puisqu'il a été joué en tant que conte, dans toute sa simplicité, sans mise en scène théâtrale, par Laetitia Solari, donc qui a lancé ce projet l'année dernière. Donc sous forme de bande essai au Théâtre du Tétard. Il y a eu une vingtaine de représentations, donc peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu. Donc il s'agit d'une création qui est à la fois une recréation, puisqu'il a été repris en main par Gilles Robic, donc pour la mise en scène, donc entièrement retravaillé avec la comédienne Laetitia Solari, et à laquelle en plus s'associe Muriel de Mazancourt pour une création musicale. Donc elle est accordéoniste et multi-instrumentiste, elle a aussi une très belle voix, et elle se retrouve en scène avec Laetitia, donc Laetitia Solari, pour présenter cette histoire des deux frères. Deux frères qui sont deux frères jumeaux, et qui vont, comme dans toute vie, être amenés à se séparer, à faire chacun son chemin pour grandir, pour évoluer. Et bon, l'histoire les conduit. Tout à l'heure, on parlait de prince, princesse. On est encore là dans cet univers.
On est dans un conte fantastique.
Oui, c'est-à-dire que il va y avoir un dragon à sept têtes, toutes sortes d'animaux. Vous écouterez tout à l'heure un extrait où en fait chacun des frères est accompagné de cinq animaux. Un ours, un loup, un renard, un lièvre, et j'en ai oublié un autre. Et donc c'est elle seule en scène. Arrive à faire vivre là tous ces animaux en même temps. Enfin, il y a quand même un tout en étant dans l'extrême simplicité, l'extrême sobriété de la mise en scène, qui fait aussi appel d'ailleurs à des projections de peinture d'art contemporain. Oui, toujours très très contemporain, très sobre. Pour rendre la multiplicité, le débordement du conte dans toute sa splendeur. Alors, on est loin, vous l'entendrez tout à l'heure dire par Gilles Robic, du conte, on en a contre Walt Disney ici, donc du conte à la Walt Disney, ça a vraiment rien à voir. Et donc voilà, cette histoire-là, entre sobriété et débordement, est à voir. Et déjà, je vous propose d'écouter Laetitia et Gilles, qui sont chez eux, ils vivent ensemble.
Et que tu as rencontré.
Donc je les ai rencontrés. Ils parlent de leur spectacle. Et vous allez voir que il y a plusieurs extraits aussi pour vous donner un petit peu le ton vocal de ce spectacle des deux frères, qui donc sera joué du 17 au 29 mars, avec quatre représentations tout public et toute une série de représentations à destination du public scolaire. Donc toutes les écoles sont invitées évidemment à prendre contact avec le Théâtre de Lanche. C'est un spectacle pour les 6 ans et plus. Je vous laisse découvrir la suite.
Un caillou dans la chaussure.
Bonjour Laetitia, bonjour Gilles. On est chez vous dans votre salon en compagnie de Yasha, votre deuxième fille. On est là pour parler du spectacle Les deux frères qui se jouera au Théâtre de Lanche fin mars. C'est un projet que tu as porté, toi Laetitia, et que Gilles a repris et mis en scène, et qui fait participer aussi Muriel de Mazancourt à la musique. Le texte des deux frères.
Voilà, donc c'est un projet dont je suis à l'origine, comme comédienne. J'ai voulu monter ce texte parce qu'il me plaisait beaucoup, enfin l'adapter pour le théâtre, parce que c'est un conte qui n'est pas très connu. Donc c'est les deux frères. C'est une histoire qui permet de suivre le trajet de deux frères jumeaux de l'enfance à l'âge adulte. C'est une histoire initiatique. Elle m'a attirée pour plusieurs choses, à la fois pour la langue, parce qu'elle a une richesse littéraire que je trouvais vraiment assez forte. Et puis elle aborde le thème de la construction d'identité, puisque c'est deux frères qui vont être abandonnés dans la forêt, et puis qui vont traverser des épreuves initiatiques, et puis devoir se séparer pour se construire, et qui à la fin se retrouvent. Il y avait une fois deux frères, un riche et un pauvre. Le riche, qui était orfèvre, avait la méchanceté dans le cœur. Et le pauvre, qui gagnait sa vie en fabriquant des balais, était honnête et bon. Or, celui-là, le pauvre, avait deux fils, des frères jumeaux, qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Et il arrivait parfois à ces deux frères d'aller chez leur oncle, le riche, pour y trouver à l'occasion quelque chose à manger des restes de sa table. J'aime bien ce texte parce qu'il recoupe un peu, il a un univers un peu fantastique comme ça, dans un contexte un peu médiéval. Et il y a les différents personnages archétypes du conte, une princesse, un roi, un dragon à sept têtes, ces deux jumeaux qui sont accompagnés d'animaux sauvages. Enfin voilà, il avait plein de choses comme ça qu'on trouve dans les romans aussi fantastiques qui m'intéressaient. Et puis surtout, je l'ai choisi parce que j'avais envie de me poser un peu un défi comme comédienne, de prendre un texte dense et d'être à la fois narratrice et interprète. Donc c'est ce que je fais, je raconte ce texte et je l'interprète, je le joue d'une façon investie pas mal dans le corps. C'est vrai que moi, ce qui m'importait dans ce texte, c'est que je sentais un souffle. Et comme comédienne qui aime bien passer par le corps, c'est ça qui m'intéressait et que je cherche aussi dans le rapport à la musique qu'on essaie de tramer, ces deux souffles qui vont se tisser ensemble. Le souffle de la musicienne, d'une voix chantée, et le souffle de ce texte qui a plein de niveaux d'écriture différents, qui a plein de niveaux de texte comme ça intéressants. Et qui traverse un imaginaire très très riche.
Reste près de moi, ne ferme pas les yeux, tu feras le guet, tu surveilleras, et s'il y a danger, alors réveille-moi.
Mais le lion, lui aussi fatigué, se tourna vers l'ours. Reste près de moi, tu feras le guet, tu surveilleras.
Reste près de moi, ne ferme pas les yeux, tu feras le guet, tu surveilleras, et s'il y a danger, alors réveille-moi.
L'ours veilla un moment, mais lui aussi, fatigué, se tourna vers le loup.
Loup, tu monteras la garde et veilleras sur nous, afin que nul ne nous surprenne.
Le loup resta un moment lui aussi, mais lui aussi, fatigué, se tourna vers le renard.
Reste près de moi. Ne ferme pas les yeux. Tu feras le guet, tu surveilleras. Et s'il y a danger, alors réveille-moi.
Par par rapport au fait du conte qui reste quelque chose de cadré, statique. Vous l'avez fait vivre par tous les souffles possibles, donc le corps, l'image, la musique, tout ça, est-ce que toi, tu te sens conteuse?
Oui, non, justement, je connais pas très bien le travail des conteurs, je suis vraiment avant tout comédienne, j'ai une formation de théâtre qui est plus vraiment sur des approches multidisciplinaires, quoi, le travail de la danse, de la voix, voire des arts martiaux. Et le spectacle est traversé de tout ça, c'est-à-dire que c'est pas du tout... On incite beaucoup sur le texte parce qu'effectivement il est dense, mais on va pas infliger 50 minutes. C'est pas du tout... C'est très vivant, quoi. Voilà, enfin, c'est très investi corporellement, c'est très vivant. Et je pense que ça, c'est aussi assez éclectique, quoi.
Et sur l'univers qui est sur la scène, il y a un univers médiéval, un univers... Là, tu parles des arts martiaux. On est dans quel type de... Est-ce que c'est moderne? Est-ce qu'il y a des références à du passé lointain? Tu le situerais où dans le temps, ce spectacle?
Au niveau de... C'est très épuré. Hein. Dans la forme, il y a trois toiles sur lesquelles sont projetées des diapositives de peinture. Il y a quelques objets qui sont des objets à musique, une cinza, des hapeaux, les instruments de musique, quelques feuilles d'automne au sol et nous deux en scène, et c'est tout. Donc après, c'est vraiment plus dans l'imaginaire. Il y a pas de... J'ai dit arts martiaux parce qu'à un moment, j'utilise aussi... Si, c'est vrai, j'ai un objet, j'ai un bâton, j'ai un couteau, des choses comme ça, quelques objets. Mais c'est assez épuré dans l'esthétique du décor, entre guillemets, quoi. Il y a pas de... Ça se passe plus après dans l'imaginaire que ça suggère, en fait, quoi. Dans les croisements.
Mon père, adieu, puisqu'il me faut partir.
Mon père, adieu.
Sur la montagne d'où je ne reviendrai pas.
Je ne reviendrai pas.
Je retiendrai mes larmes, mes soupirs. À chaque pas.
Le dragon.
Le dragon est là-bas.
Le dragon.
Le dragon.
Toi, Gilles, même si tu l'as pas choisi le conte, en termes d'histoire, est-ce qu'elle vient t'interpeller aussi personnellement? Est-ce que tu as une émotion particulière liée à l'histoire, le conte lui-même?
L'histoire, elle est intéressante parce qu'il y a des jeux de miroir et des jeux de mise en abîme. Donc ça, c'est en termes de structure, elle est intéressante. Après... Le rapport à la fable, toujours se dire qu'on constitue la fable à mesure qu'on travaille. Et c'est en ça où je considère vraiment ce travail comme un travail sur du texte, c'est-à-dire qu'il y a de la matière verbale, enfin de la matière écrite, et selon comment Laetitia l'a dit, selon la situation dans laquelle elle est pour le dire, ben on produit un sens différent. Et moi, ce qui m'intéresse dans le travail, c'est ça. C'est-à-dire comment est-ce que, d'une façon générale, j'ai envie qu'on évite d'arriver à un spectacle qui soit un peu néoclassique, on va dire, avec une belle musique, tout bien léché, tout médiévalisant, mais qu'on essaye de créer de la distorsion. Au niveau de la musique, il y a des choses qui sont limite dissonantes, et on est plus proche de Messiaen que de ritournelle, mais en même temps, on joue aussi avec des rythmiques de gigue ou de choses comme ça, de musique plus médiévale ou plus baroque. Et voilà, Muriel travaille à tordre ça avec le travail sur l'accordéon, sur le souffle, sur le bruit, et de même qu'on le fait avec les images, c'est-à-dire comment est-ce qu'on part d'images et puis petit à petit les choses se transforment. C'est plus ça qui m'intéresse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vraiment... maintenant s'emparer d'un conte en se départissant de toute l'imagerie qui pèse sur les contes à l'heure actuelle. Quoi. Pour moi, c'est un des enjeux importants par rapport au jeune public, justement, cette question-là de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a quand même une, une imagerie, qu'elle soit Disney ou qu'elle soit Seigneur des Anneaux et tout ça, qui est extrêmement prégnante, qui finalement ne pousse que sans cesse à plus de réalisme, on arrive à des effets encore plus phénoménaux pour rendre le dragon et tout ça, alors que c'est pas ça qui est en jeu. Une image, on ne la voit pas toute. Une véritable image, c'est pas du visuel, c'est-à-dire on la construit. On la construit, on s'implique à l'intérieur, on n'est pas écrasé par l'image. Et je trouve en ça que justement toutes les images qu'on a du conte, par la parole et par juste quelques éléments signifiants, on arrive à faire appel à toute cette mémoire et on arrive aussi à la mettre en question.
Donc l'idée, c'est de créer un espace de liberté à l'imaginaire des 6 ans et plus qui viendront vous voir, quoi. Eh bien, écoutez, alors, bonne chance pour ces différentes représentations. Et
Merci et venez nombreux.
Allez nombreux découvrir ce conte Les Deux Frères à la Friche du Panier. Donc, représentation pour tout public les mercredis et samedis à 15h du 17 au 29 mars. Et pour les scolaires, c'est les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Pour tout renseignement, adressez-vous au Théâtre de Lanche, 04 91 91 52 22.
Un caillou dans la chaussure. Un caillou dans la chaussure.
Un caillou dans la chaussure, c'est terminé. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 26 mars à 13h30 avec un auteur, éditeur et formateur. J'ai nommé Christian Bruel qui a fondé les éditions Être, tout un programme. Après l'avoir rencontré, vous ne lisez plus les livres de la même manière. Avec lui, dès les premiers albums, textes et images nous plongent en littérature. Le petit cinéma, Nathalie, au programme... Monsieur et Monsieur.
Et oui, on en a parlé la dernière fois, vous vous souvenez? Ça vous a donné envie, hein?
Tout à fait.
Et on en parlera mieux lors de la prochaine émission de films, des films pour les tout petits, mais surtout pour les plus grands. Ça réveille la poésie.
Merci Nathalie. Et côté spectacle avec Florence, c'est la surprise. Un caillou dans la chaussure, c'est toute une équipe. Florence Michel, Nathalie Guimard, Marie-Dominique Russis et Sébastien Gély à la technique.
Merci
à très bientôt. Au revoir.
À bientôt.